Bon, eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de Numericissimo. Donc, c'est le thème aujourd'hui qui a été choisi, c'est celui des réseaux sociaux, des algorithmes et aussi de la social data. Donc, on est très heureux de vous retrouver pour échanger autour de ce sujet. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Émilie Marcois, je suis dans les médias sociaux depuis près de 20 ans maintenant, le temps file vite. J'ai plusieurs casquettes et plusieurs cordes à mon arc. Je suis dans le conseil, la formation, le community management. Je suis aussi créatrice de contenu B2B, notamment au sein de la Brigade du Web. Et puis, je fais partie de l'équipe Numericissimo, d'où ma présence aujourd'hui en tant qu'animatrice sur le thème des réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui découvrent Numericissimo, c'est un annuaire des top acteurs du numérique en France, et donc concrètement, on souhaite réunir dans un seul document, un seul livret, un seul annuaire, l'ensemble des acteurs, ceux qui font bouger le numérique aujourd'hui et aussi le numérique de demain. Il y a une première édition qui est déjà sortie, on est en train de travailler sur la deuxième édition, avec un objectif d'avoir au moins 200 membres, et donc si vous n'avez pas encore candidaté, n'hésitez pas à vous rendre sur numericissimo.fr pour déposer votre candidature et éventuellement aussi, pourquoi pas, suggérer à certaines personnes de votre réseau de rejoindre l'annuaire et de candidater. Alors, bon, l'annuaire, le but, c'est effectivement de réunir les acteurs du numérique en France, mais aussi, comme vous le voyez, c'est la mission, l'objectif, c'est aussi de créer des temps d'échange sur différentes thématiques qui nous intéressent. Bon, vous avez des webinaires qui ont eu lieu sur la cybersécurité, il y en a eu un sur la souveraineté numérique. Aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux. Donc voilà, il y a ce côté annuaire et puis cette volonté d'échanger et d'avoir des discussions concrètes et surtout des conseils pratico-pratiques pour l'ensemble des professionnels et des acteurs du domaine qui nous suivent. Alors, le sujet du jour... C'est, comme je vous l'ai rappelé, c'est donc comment et arrêter de deviner et de produire des contenus, de partager des contenus qui sont utiles et surtout de convertir, d'être présent, d'être actif. Avec un constat aujourd'hui, c'est qu'on entend partout qu'il faut publier plus, qu'il faut être visible, qu'il faut suivre les tendances, mais finalement la réalité, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement n'est plus là, les contenus ne performent plus. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent cette situation et nos intervenants auront l'occasion d'y revenir plus en détail par la suite. Mais bon, voilà, il y a les évolutions des algorithmes constants, il y a l'évolution des comportements, l'explosion des contenus, c'est assez considérable. Et bien sûr, je ne vous l'apprends pas, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos intervenants qui vont se présenter dans un moment, c'est comment arrêter de communiquer à l'aveugle et construire une présence digitale qui convertit, et ce grâce à une meilleure compréhension des algorithmes d'une part, grâce à l'utilisation de la social data et aussi à un meilleur positionnement. Et donc, j'ai la chance pour parler de ce sujet aujourd'hui d'être entourée par Anthony Rochant et Alexis Lemonnier. Et donc, je vous laisse vous présenter rapidement et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, Alexis ou Anthony, qui démarre?
J'y vais, allez. Donc, enchanté, merci Émilie pour l'invitation. Donc, moi, je suis Alexis Lemonnier, donc agence Cause. Nous, on fait du pilotage éditorial et de croissance pour les entreprises. Concrètement, on va intervenir dans la création de contenu jusqu'à des choses, d'ailleurs, qui sont hors ligne, comme la création de cercles de réflexion. Donc, on va intervenir essentiellement pour des entreprises dans le B2B, banque, finance, industrie, service. Et on a une branche également B2C pour le e-commerce. Et on a trois leviers qu'on active essentiellement, qui sont LinkedIn, la vidéo et Instagram. Voilà, des sujets sur lesquels certainement on va revenir. Donc voilà ce qu'on fait à l'agence Cause depuis maintenant 4 ans.
Merci Alexis. Anthony ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci Émilie pour l'invitation. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous. Donc moi, je suis CEO et cofondateur donc, de LEW, qui est l'acronyme de Les Experts du Web. Je suis consultant et formateur en marketing digital, social listening et IA, et on va dire que j'accompagne et forme des directions marketing et de communication depuis un peu plus de 15 ans, et je suis aussi créateur de contenu B2B essentiellement.
Merci à tous les deux pour cette courte introduction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, comme je disais, avec une première question que je vais vous poser. Et chacun, à tour de rôle, vous prendrez la parole. Alors, je pense que c'est intéressant de commencer par faire un petit état des lieux en ce qui concerne les réseaux. Et donc, pour le coup, Anthony, Anthony ou Alexis, excusez-moi, j'ai pris mes notes et donc j'essaye d'avancer. Et donc, ce que je disais en introduction, au final, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de publier toujours plus pour obtenir finalement moins de résultats. Et donc, concrètement, à quoi est due cette perte de performance qu'on peut observer sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres plateformes sociales?
C'est Anthony? Non, c'est Alexis. C'est...
Alexis ou Anthony, comme vous voulez.
Bah. Moi, ce que je vois, en fait, c'est il y a trois points. La première chose, c'est que la délégation, elle est plus humaine. Elle est maintenant sur l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si on prend LinkedIn, on avait un réseau qui fonctionnait avec ses métriques à lui et puis ses systèmes, ses hacks, etc. Et au bout de la chaîne, on avait de l'humain qui existe encore, mais qui était important pour arbitrer un peu les contenus, pourquoi ils performent, etc., etc., et qui pouvait arbitrer ça. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui fonctionnent finalement tous de la même manière, que ce soit sur Insta ou LinkedIn, etc. Donc, c'est l'IA qui chapeaute tout ça. Et ce qu'on voit d'ailleurs sur Insta, quand vous commencez à regarder des vidéos de foot ou n'importe quoi sur des chats, un sujet qui t'intéresse toi plus particulièrement, Émilie, bah, en fait, vous mangez des vidéos de chats. Et bien là, en fait, on a ce changement-là. Donc, c'est ce qui fait aussi une première interprétation qui est super importante, parce que ça va impliquer aussi des positionnements différents pour chacun d'entre nous, parce que c'est une machine quelque part qui règle un peu tout ça. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on va rechercher aussi de la cohérence, moins de volume, mais de la cohérence entre finalement qui vous êtes et votre public cible. Donc cette cohérence qui peut paraître un peu abstraite comme ça, quand on dit comme ça un peu les choses, elle est extrêmement importante à la fois pour l'IA, mais effectivement elle est importante dans une ère de saturation de contenu, parce que ça c'est le dernier levier, c'est la saturation qui fait que avec l'IA, vous voyez, il y a beaucoup de volume. Et typiquement là sur LinkedIn, il y a une information comme quoi, je parlais d'humain qui dégage, mais là, les équipes LinkedIn se penchent maintenant sur les textes et les contenus qui sont générés via l'IA avec des formulations très IA. Et donc, pour non pas les pénaliser, mais en tout cas les mettre un peu de côté. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir prendre en compte. Donc, on a beaucoup de volume, mais donc ça veut dire qu'aussi, il faut savoir comment on va injecter un peu d'humain un peu dans ces contenus. Donc, qui dit beaucoup de volume, dit beaucoup de concurrence, dit beaucoup de saturation. Et puis, j'ajouterais même un dernier point. Après, je laisse la parole à Anthony. Qui paraît bête, mais que je trouve très 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 marquant. Quand vous êtes sur LinkedIn, le réseau où je suis le plus, en tout cas en journée, puis le soir, je me déporte à scroller n'importe quoi sur Instagram. Mais quand vous êtes sur LinkedIn, j'ai remarqué quelque chose dans l'évolution, c'est que même les boutons de LinkedIn, notamment sur mobile, même si vous avez à peu près que 70% de connexion mobile sur LinkedIn, les boutons sont tellement faits aussi de manière presque trop minimaliste qu'ils empêchent aussi l'interaction. Et ça, c'est une évolution qu'on a vue, même dans cet aspect un peu UX, des boutons trop, j'ai envie de dire presque trop discrets. Vous pouvez regarder vous-même en scrollant sur LinkedIn, je trouve. Et puis le deuxième levier, on parlait d'Instagram, c'est tout simplement quand vous regardez une vidéo sur LinkedIn, vous n'avez pas le scroll infini, elle est bloquée à cette vidéo. Donc ce qui fait aussi que ça empêche aussi certaines formes d'interaction. Donc c'est un tout, c'est multifactoriel, mais je pense que même dans l'expérience utilisateur de certaines plateformes, on a aussi ce côté très passif, cet empêchement presque d'interagir avec le contenu. Voilà à peu près moi ce que je vois aujourd'hui.
Alors juste avant de donner la parole à Anthony, j'avais juste une petite question par rapport à ce point que j'avoue, je ne m'a jamais vraiment interpellée sur le design justement et sur ces boutons. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de se dire que finalement, ils veulent nous retenir bien sûr sur la plateforme et plus on scrolle, plus on reste longtemps, mais il y a quand même cette problématique d'engagement qui est assez cruciale sur les médias sociaux. Donc, ce n'est pas un peu paradoxal de la part de LinkedIn notamment
Complètement. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, je trouve, sur LinkedIn, ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, qui n'est pas très longtemps, 3-4 ans à peu près, il y a eu une vague de licenciements d'ingénieurs à hauteur de, je crois, 700 à l'américaine. C'est très massif d'un coup. Et je pense que ça a impliqué aussi des développements. Déjà, c'est une plateforme qui a ses codes à elle, qui est très en retard au niveau souvent du design, etc. Il suffit de parler, d'évoquer la boîte de réception de LinkedIn pour faire hérisser tout le monde parce que c'est imbitable, c'est très mal organisé, ils rajoutent juste une étoile de temps en temps. Donc ces petites modifications-là ont des vrais impacts aussi en termes d'interaction. Donc je suis complètement d'accord sur le fait que ça soit complètement paradoxal. De toute façon, LinkedIn ouvre tellement de chantiers en même temps que ça devient compliqué. Et là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais typiquement en termes de chantier, et donc du coup, tu vois, ces boutons qui disparaissent, en termes de chantier, on va développer par exemple le rendez-vous en direct payé directement sur LinkedIn, qui est développé en bêta-test toujours aux États-Unis, puisque c'est eux qui sont prioritaires. Bref, donc je trouve qu'en termes d'ergonomie, cette plateforme n'a jamais été au point en termes d'expérience utilisateur. Donc je partage ton constat sur le côté complètement schizophrène ou paradoxal des choses.
Bon, malgré tout, ils ont quand même une belle audience, donc il y a quand même on va lancer, donc ça marche plutôt pas mal malgré les petits écueils que tu viens de souligner. Anthony, tu rejoins, je crois, Alexis sur l'histoire de la saturation et du volume des contenus.
Oui, ce que vient de dire Alexis, on le voit tous les jours quasiment sur le terrain. On a un volume qui a explosé, hein, que ce soit LinkedIn, que ce soit X, que ce soit Insta. C'est partout à peu près la même histoire. Plus de contenu, plus souvent, par plus de monde. Et avec l'arrivée des IA génératives, on a franchi finalement un cap supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a une part massive en fait, des publications qui est aujourd'hui produite ou assistée par l'IA. Donc, ça veut dire que derrière, la portée organique des marques, elle s'effondre. Et en fait, ça devient structurel. Donc en fait, on a plus de contenu, on a moins d'espace visible et on a des audiences qui sont saturées. Et mathématiquement, finalement, ça ne peut pas tenir. Donc en fait, le vrai basculement, il n'est pas que dans le volume, en fait, il est dans les critères de visibilité. Parce qu'avant, quand je dis avant, il y a quelques années, pour être likable, pour être accrocheur, etc., le contenu, il devait déclencher en fait une réaction humaine immédiate. Aujourd'hui, il faut être citable. Citable par une IA qui va synthétiser une réponse dans ChatGPT ou Perplexity. Citable par un algo qui cherche de la cohérence en fait, sémantique sur l'ensemble de la présence. Bref, on a une mécanique de fond en fait, qui a changé. C'est-à-dire que des contenus qui fonctionnaient très bien il y a 18 mois, ça ne décolle plus. Ce n'est pas parce qu'ils en fait, sont moins bons, c'est parce qu'on a des règles du jeu qui ont un petit peu changé. Il y a un point qu'on sous-estime aussi assez massivement, c'est que en fait, l'engagement, il se déplace. C'est-à-dire que l'engagement quitte un peu les fils publics pour aller dans le dark social, dans les DM, dans les groupes WhatsApp, Slack, et j'en passe, hein, Discord, etc. Et la majorité en fait, du partage de contenu va se faire aujourd'hui via des canaux qu'on peut plus difficilement traquer. Vous publiez un post, vous avez une statistique avec une poignée de likes, deux commentaires, etc. On en conclut finalement que ça n'a pas marché. Pendant ce temps-là, le post, il a circulé dans des dizaines de DM, ça a été partagé dans des groupes WhatsApp et ça a déclenché les conversations chez les prospects et ça, on le voit quasiment nulle part. Et moi, quand un dirigeant me demande mes contenus ne performent plus, il est embêté, je lui pose toujours la même question, en fait, c'est est-ce que vous mesurez encore au bon endroit? Parce que dans la majorité des cas, on a le contenu qui performe, mais en fait, on regarde le mauvais cadran.
Donc, c'est une très bonne remarque. Du coup, ça veut dire qu'aussi, d'une certaine façon, les entreprises comme les marques, la question est pour Anthony, mais aussi Alexis, si tu veux réagir, c'est qu'il y a aussi cette volonté de, on reste que sur les impressions et sur le nombre de commentaires, mais en fait, tout ce qui n'est pas visible, on n'en tient pas compte. Donc, il y a ce côté... Il y a une forme d'éducation finalement à mener auprès des marques et des entreprises pour qu'elles prennent conscience de ces enjeux, de ces dynamiques qui ont changé.
Complètement, oui. Anthony, vas-y, je t'en prie.
Oui, en fait, c'est toujours. On a un peu les vanity metrics aussi qui ont un peu la dent dure et arriver à faire comprendre effectivement que les impressions, les vues, c'est bien, on a eu 10 000 vues sur notre vidéo YouTube, mais est-ce que c'est actionnable derrière? Qu'est-ce qu'on a fait? Qui a réellement été impacté? Il y a en fait encore cette logique, cette mauvaise logique qui a la dent dure. Donc, c'est là aussi où il faut éduquer. On va dire.
Non, mais complètement, je pense qu'il y a un côté pédagogique sur la. C'est un peu la deuxième question dans ce webinaire, mais je me permets. Mais en gros, il y a une lecture des métriques qu'il faut complètement modifier. Et on le voit sur LinkedIn, notamment, on peut maintenant, et c'est acté, il y a deux éléments que je trouve super importants. Le premier, c'est de voir que des fois, on a beaucoup plus d'enregistrements que de likes, ce qui est assez impressionnant. Ça veut dire qu'en fait, les personnes, comme d'habitude, n'interagissent pas avec votre contenu, mais le gardent de côté. Donc ça, c'est important à prendre en compte dans la mesure où finalement, votre contenu doit être lu aussi de cette manière-là. Et puis, la deuxième chose, si on prend par exemple Instagram, nous, ce qu'on va regarder pour nos clients, effectivement, les croissances de compte, on peut en avoir. on va faire le ratio surtout de la perte et de l'engagement, en fait. C'est-à-dire que vous allez vendre certaines vanity metrics à vos clients sur les impressions, la croissance d'abonnés, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on, et quel est le taux de rétention qu'on a. Et au bout de la chaîne, puisque nous, on est assez pénible aussi sur qu'on accompagne des entreprises, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout savoir, même d'étaler la comptabilité devant nos yeux, parce qu'en fait, tout simplement, on ne peut plus travailler sans, on parle de mesures, mais on ne peut pas travailler sans comprendre l'impact. Et donc, du coup, ça veut dire, ben, au bout de la chaîne, qu'est-ce qui va être généré comme trafic, qu'est-ce qui va être généré comme vente quand je parle d'e-commerce, et donc du coup, est-ce qu'on va être performant. Donc, il faut à la fois changer sa lecture des métriques sur les vanity, notamment sur LinkedIn, là, on a des choses importantes sur les enregistrements. Et puis, deuxièmement, il faut peut-être aussi essayer d'ouvrir un peu, casser un peu les silos pour aller voir un peu ce qui se passe en termes commerciaux. Là, je parle plutôt de grandes entreprises. Et dernier point important, c'est que vous avez aussi maintenant sur le premium LinkedIn la possibilité d'avoir une analyse de votre propre compte. Ce qui est, en fait, ça fait des années qu'on réclame, entre guillemets, mais ça, c'est super important de savoir que des personnes, moi, ce que je voyais l'autre jour, restent 49 secondes sur mon profil. Ça veut dire bah, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils cliquent, etc. Donc, il faut vraiment changer sa lecture de ses métriques en fonction de ses objectifs, qu'on soit indépendant ou entreprise.
Donc, si je comprends bien, tu recommandes quand même d'avoir un compte premium ou on peut s'en passer ?
Bah, ce débat-là, après, c'est toujours pareil.
D'enjeux, de budget.
C'est vraiment une question d'objectif. C'est-à-dire que j'ai vu des clients qui avaient pris un Sales Navigator pour toucher des entreprises qui étaient compliquées à cibler, etc. Et du coup, qui s'étaient pas endettés, mais en tout cas, qui s'étaient mis une charge là-dessus alors que ça ne servait à rien. Et de l'autre côté, oui, on peut avoir ça, mais par étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, Sales Navigator, qui reste quand même une usine à gaz, a quand même des leviers qui sont plus intéressants sur l'IA, typiquement, parce que là, je parle de premium, ça, c'est pour les indépendants, pour voir qui va sur votre profil. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement stratégique. Et je comprends que LinkedIn le fasse payer, parce que ça, c'est très important de savoir qui vient. Et pour les entreprises, en termes de Sales Navigator, la couche IA est devenue très importante parce que LinkedIn va aller chercher des données sur des actions possibles à mener en fonction de votre entreprise à vous. C'est-à-dire que Cause peut savoir comment il peut accompagner typiquement, je sais pas moi, le Crédit Agricole, parce que ces informations, alors qui sont générées par l'IA, donc toujours à voir avec des pincettes, mais là, on va avoir des choses importantes. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire, l'investissement, il dépend de ses objectifs. Donc, si on n'est pas, j'ai envie de dire, calé un peu à l'aise ou en tout cas au clair avec ses objectifs, bah, finalement, on finit par un peu tâter à droite, à gauche et puis par être beaucoup moins performant, beaucoup moins efficace.
Bon, en tout cas, c'est très clair. Merci d'avoir précisé. Juste avant de passer à la deuxième question, au deuxième sujet de ce webinaire, je voulais juste vous demander, en termes de, on en a parlé de baisse de la portée. Est-ce que vous avez, en termes de chiffres, c'est quoi ? C'est du 50-60% qu'on a perdu sur l'année qui vient de s'écouler ou à peu près ?
J'aurais pas dit autant et de manière globale, plutôt 30-40% en termes de portée alors depuis 2025, sur les 12 derniers mois, en moyenne, je dirais. Je ne sais pas, Alexis.
Moi, je. Bon, encore une fois, ça dépend des comptes, mais j'irai un peu au-delà quand même. J'irai, je sais pas moi, si je prends que mes contenus, ça fait 50-60% en moins d'impression. Après, c'est des questions stratégiques de ce que vous développez. Oui, mais globalement, oui, on est sur des grosses baisses d'impression en fait.
Oui, donc il faut apprendre à se dépatouiller des algorithmes de LinkedIn. Ok. Alors. Le deuxième sujet du jour, donc effectivement, c'était maintenant qu'on a fait ce petit état des lieux, c'est de savoir comment on allait utiliser la social data pour arrêter de communiquer à l'aveugle, hein, parce que le but, c'est au pifomètre de se dire qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Donc, on l'a vu à travers les métriques et les données que vous avez évoquées, qu'on peut en tirer quelque chose de très intéressant, de pertinent, et de voilà, pour pouvoir faire les choses de la meilleure façon qui soit. Et donc, pour le coup, Anthony, toi, tu voulais nous parler un petit peu de social data. Et donc avant de rentrer justement sur le déroulé plus précis, c'est de nous dire un peu de quoi il s'agit, parce que je pense, peut-être que certains dans ceux qui nous écoutent savent déjà de quoi il s'agit, mais ce serait bien justement de donner la définition et nous dire à quoi ça sert concrètement.
Oui, alors la social data, on parle vraiment de toutes les conversations, enfin l'ensemble des conversations, que ce soit des mentions, que ce soit des signaux, des comportements qu'on va capter sur le web social. Le web social, c'est large, hein, donc ça reprend évidemment les réseaux sociaux. Aussi tout ce qui va être espace ce type forum, blog, site d'avis comme Trustpilot, Glassdoor, etc. Reddit en fait partie. Et tout ce qui se dit finalement autour de la marque, autour des produits, autour du secteur des concurrents de la cible, on va prendre en compte ça, qu'on soit tagué finalement ou pas, qu'on soit au courant ou pas. Et on se rend compte en fait que pour beaucoup de marques, la social data, elle s'arrête aux mentions taguées dans leur outil de monitoring. Donc ça, c'est l'angle mort en général, l'angle mort numéro un. Et une grande partie de ce qui se dit finalement sur une marque, elle se dit sans citer la marque directement, sans hashtag, sans mention, parfois même aussi sans même nommer la marque, et juste en décrivant le produit ou le secteur. Et c'est précisément là que vont se cacher très souvent les insights les plus précieux. Alors on a... Je peux donner quatre usages assez concrets qui correspondent en fait à un peu à quatre niveaux de maturité. Le premier, c'est d'écouter avant de parler, c'est-à-dire que avant une campagne, avant un lancement, une série de posts, c'est de voir finalement ce que la cible dit vraiment, c'est-à-dire dans ses mots à elle, avec ses émotions, ses frustrations, ce qui fait qu'on arrête de projeter ce qu'on pense finalement qu'elle veut, notre cible. Et on observe vraiment ce qu'elle exprime. Et ça, c'est, on va dire, le niveau de base. Et déjà, beaucoup de marques ne le font pas. Le deuxième point, c'est d'arriver à identifier les vrais sujets qui engagent et pas finalement ce que l'on pense qui intéresse en fait notre audience, ce qui va générer des conversations, des partages, etc. Souvent, c'est pas du tout ce qu'on imagine au départ. Par exemple, une marque B2B qui veut parler d'innovation produit, elle va découvrir que c'est du vécu. Hein, que sa cible parle surtout de management d'équipe, alors que, par exemple, une marque retail qui mise sur le prix découvre que ses clients parlent surtout d'expérience en magasin. Finalement, un sujet qui engage, qui engage un marché n'est presque jamais celui qu'on a prévu de traiter. Donc, c'est... on n'est plus finalement sur de l'intuition et on peut avoir finalement des surprises. Le troisième, c'est d'arriver à repérer les angles morts, puisque les conversations où la marque devrait être présente et où elle ne l'est pas. C'est-à-dire que les comparaisons spontanées avec un concurrent, où personne ne défend la position, par exemple, ou va défendre votre position. Des questions récurrentes aussi, auxquelles finalement on n'a que les concurrents qui apportent des réponses. Finalement, la communauté où votre cible se trouve et où votre marque est invisible. Et c'est souvent là aussi où va se cacher les plus gros leviers de croissance, parce que ce sont des espaces de conversation, on va dire, déjà à chaud, où il suffit d'arriver avec le bon angle, on va dire, pour exister. Et puis, autre angle, ce qui est assez puissant aussi, c'est de valider une intuition par la data plutôt que par le feeling. C'est-à-dire que on passe du « je pense que notre cible attend ça » à « je vois que notre cible exprime ça ». Et ça change en fait radicalement les conversations en COMEX ou en comité de direction, notamment hein, quand on a un DIRCOM qui arrive avec des courbes de mention, des verbatims, des analyses, etc., bah, il ne défend plus un avis. Donc, c'est là où on peut présenter une réalité vraiment documentée. Et c'est cette réalité documentée, justement, qui débloque les budgets, qui va permettre d'arbitrer, finalement, les choix stratégiques. Donc, en fait, le basculement de posture, il est complet à partir du moment où on intègre cette data sociale dans son quotidien. On arrête de produire, finalement, en espérant que ça marche. Au doigt mouillé, on va dire, et on produit sachant pourquoi ça va marcher. Donc, on arrête ici finalement de subir l'algo, on documente des schémas répétitifs, des patterns, etc., pour voir ce qui fonctionne finalement dans le secteur. Donc, c'est ce qui permet d'arrêter de gaspiller aussi le budget sur des sujets qui sont morts ou des sujets qui sont saturés. On arrête de courir après les tendances et c'est ce qui permet d'anticiper les choses. Donc, en fait, la social data, ce n'est pas vraiment un outil de reporting. Souvent, on l'associe à ça. C'est plutôt un outil de pilotage. Et c'est vraiment ce qui sépare les marques, on va dire, qui découvrent ce qui s'est passé juste avant le mois dernier, de celles qui anticipent ce qui va se passer le mois prochain.
Bon, bah, du coup, j'ai plein de questions, moi. Donc, je me permets, je te les donne à la volée et puis tu t'essayes de m'aiguiller. Alors là, bon, moi, tout de suite, spontanément, bon, je comprends qu'en fait, finalement, ça évite aussi, et grâce à la data, d'avoir des biais. On parle des biais pour l'IA, mais finalement, toutes les personnes ont des biais aussi parce qu'on a des filtres personnels qui font que, justement, on envisage les choses différemment. Donc, du coup, la social data permet de faire sauter les biais, si je comprends bien. Ensuite, j'avais deux autres questions. C'est est-ce que la social data, telle que tu la présentes aujourd'hui, elle a toujours existé ou est-ce qu'elle monte en puissance aujourd'hui? Et enfin, la troisième qui m'a toujours interpellée, c'est le côté oral. On mentionne une marque dans une vidéo ou dans un podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils permettent de capter ce type de mention?
Alors, pour répondre à ta première question, oui, la social data, ça a toujours existé, mais en fait, avec l'explosion justement de la data, c'est là, justement, sur les réseaux sociaux, c'est là où on a le plus de data. On a produit énormément là en quelques années. Donc, le volume est plus important. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de choses aussi qui peuvent passer sous le radar. Mais c'est un peu ambivalent comme situation parce qu'on a justement tout intérêt à vraiment contrôler ce qui se passe. Et là, on rentre dans une logique de social listening et d'écoute sociale qui va être hyper importante finalement pour orienter la décision. Donc, c'est finalement cette data sociale, elle va permettre vraiment d'éclairer le chemin, que ce soit pour la direction, que ce soit pour un CM ou que ce soit pour un SMM. Elle est vraiment génératrice d'insights pertinents. Si j'ai envie de dire pas de social data, c'est difficile de tirer des conclusions qui vont nous permettre d'actionner les choses. Donc oui, ça a toujours existé, mais avec le volume et surtout avec l'apparition de l'IA, parce que elle est consommatrice aussi de data, on a davantage d'intérêt aujourd'hui à mettre des processus en place.
Et pour l'oral, du coup ?
Pour la partie non mentionnée, on va dire, c'est d'arriver à détecter justement les outils aujourd'hui ont du mal à le faire. Alors l'IA, effectivement, on peut commencer à le faire. Alors après, il y a la reconnaissance d'image. Il y a certains outils aussi qui arrivent à faire de la reconnaissance d'image depuis déjà quelques années. Des outils que je ne citerai pas forcément, qui ont été spécialisés là-dessus. Il y a du progrès et on arrive effectivement à les détecter des mentions, on va dire, non exprimées sur certaines vidéos, effectivement, et sur certains visuels. Mais c'est toujours pareil. Là, c'est l'interprétation humaine aussi qui va faire la différence, c'est d'aller chercher, on va dire, dans l'invisible, vraiment dans ce qu'on ne voit pas, c'est là où on va aller chercher des signaux faibles, et on va aller chercher des insights vraiment pertinents. Après, je dirais que l'outil ici va avoir son importance, mais même si ce n'est pas la finalité, oui, on pourra avoir besoin d'outils, mais ça reste quand même ça reste complexe pour aller chercher là où ça n'a pas été mentionné, effectivement.
Ok, merci Anthony. Alexis, toi, ton point de vue sur la social data, du coup, les algorithmes ou pas? Ouais, je veux réagir sur les positions. Il n'y a pas de souci.
On parlait justement de tout à l'heure de métriques. Juste deux exemples concrets qui me sont arrivés avec des clients. Alors, premier, il y a quelques années, une grande entreprise de luxe qui n'était pas capable de lire pourquoi elle ne vendait pas, en l'occurrence, des montres. Et donc, du coup, c'était marqué quand même noir sur blanc par de direction marketing que des personnes qui restaient 49 secondes sur un site ne pouvaient pas envisager d'acheter une montre à 14 ou à 20 000 euros, voire plus. Et donc, ça, c'était noir sur blanc. Donc, ça m'a un peu perturbé dans le sens où déjà, l'agence conseillait mal et alors qu'elle disait que les résultats étaient bons et la direction marketing n'était pas capable de lire ces métriques-là. Et aujourd'hui, on pourrait croire que tout ça a été effacé, il y a eu de la pédagogie. Et aujourd'hui, on a d'autres exemples. Nous, ce qu'on appelle un peu le budget aveugle, c'est-à-dire que des clients qui ont énormément d'outils et donc du coup, qui s'en servent des fois pas mal ou pas assez, qui n'arrivent pas à les lire, qui ont trop de data, donc qui n'arrivent plus à tout simplement diriger les choses. Donc, on a aussi cette problématique. qui est en plus doublé par un autre phénomène qu'on voit notamment dans les grands comptes, c'est ce côté chacun va utiliser l'IA à sa façon, sans cadre, etc. Donc, je déborde un peu sur la social data, mais tout ça a aussi des conséquences. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la modification des métriques, ce qui est important à voir, c'est le changement un peu de rythme. C'est-à-dire, où est-ce qu'on arbitre les choses à court terme et à ce moment-là, on fait des opérations flash avec des métriques très précises à voir, ou alors on fait vraiment des choses à long terme parce que dans les arbitrages aujourd'hui qu'on a avec des entreprises et directions marketing, ETI, grosses PME, grands comptes, on est sur du trimestre, on est sur des mauvaises métriques, donc on n'a pas les résultats escomptés au final parce qu'il y a des choses qui baissent, etc., etc. Donc, on est obligé de bidouiller. Ça, il faut vraiment changer d'échelle. Et pour changer d'échelle, il y a aussi toujours cette problématique récurrente entre le marketing et le commercial qu'on peut retrouver chez un indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de créer d'excellents contenus, mais qui est une patate, excusez-moi du terme, mais en termes de vente. Et donc, du coup, qui va casser un peu cette dynamique-là parce que commercialement, ça ne fonctionne pas. Donc, le changement d'échelle de métrique et surtout de reporting à court ou à très long terme, pour moi, est essentiel pour des entreprises, voire des indépendants. Et puis après, il y a toujours ce sujet du commercial et de la communication qui est récurrent. Et c'est pour ça que la data, effectivement, avec l'IA, on a un volume extrêmement important, mais on replonge toujours dans la même problématique, c'est j'arbitre sur quoi, tout simplement. Donc, ça pose toujours la même question.
Donc, ça veut dire que cette fameuse collaboration marketing commercial, elle existe depuis des années, on y est encore aujourd'hui, en fait.
Ah ben, complètement. En fait, moi, je trouve que, de manière générale, on sous-estime le conservatisme des choses. C'est-à-dire qu'en fait, pas forcément que politiquement, mais on sous-estime le côté conservateur des nouveautés ou des innovations. Il y a toujours les early adopters dans les entreprises ou de manière générale, et on sous-estime l'inertie des entreprises dans la façon dont elles vont arbitrer. On sait très bien que l'IA, en partie, alors les études, elles sont des fois un peu contradictoires, mais on sait très bien que l'IA, pour la majorité des personnes aujourd'hui, est utilisée comme un Google amélioré pour des petites recherches de 12, 14 mots, pas plus. On le fait tous aussi d'un autre côté, et qu'il n'y a pas cette couche d'analyse. Aujourd'hui, nous, on l'utilise beaucoup pour nos clients en amont, dans la réflexion stratégique, en mettant énormément de données à l'intérieur qu'on peut récupérer, pour avoir, là, on a un vrai avantage stratégique parce qu'on va avoir une lecture qui va être beaucoup plus rapide et après, on va arbitrer par-dessus. Et alors qu'en entreprise, on est encore à l'ère de générer une image, évidemment faire beaucoup de textes, donc évidemment se faire pénaliser ne serait-ce que par ses lecteurs et à terme peut-être même par les algorithmes eux-mêmes en disant c'est trop IA. Bref, donc du coup, on a aussi, on sous-estime beaucoup l'inertie en fait. Voilà. On a toujours cette perception, surtout dans notre domaine, de il faut être avancé, etc. Ne serait-ce juste pour terminer un exemple en termes de vidéo. On fait énormément, on fait des milliers d'heures de vidéos, nous, pour nos clients, chaque année. Je peux vous dire que l'IA nous sert en partie, mais vraiment à la marge, parce que ce n'est pas encore au point. Honnêtement, on ne peut pas générer un film. Tout ce qu'on voit générer, qui est « waouh, l'effet buzz », avec « regardez cette séquence », qui est toujours un peu toujours la même chose, un peu mystique. Et donc, du coup, au final, on s'aperçoit qu'en termes de réalisation, ben, en fait, on n'arrive pas. Et puis après, si en plus, par-dessus, vous mettez aujourd'hui, à terme, alors c'est peut-être pas le sujet, mais à terme, si vous mettez une couche RSE en disant « oui, mais nous, on produit des films, alors on va vider une rivière pour produire 30 secondes », ben, mine de rien, il ne faut pas oublier que ça va avoir un impact aussi à terme parce que des entreprises, notamment des grands comptes, vont dire « nous, on ne veut pas d'image générée par l'IA en termes de perception, mais aussi… » Pour notre bilan RSE, c'est pas bon. Donc voilà. Donc ça aussi, il y a peut-être des arbitrages qui vont être faits aussi là-dessus.
Ok, merci Alexis. On avait évoqué aussi, tu as parlé de métriques. En fait, aujourd'hui, quelles sont les métriques qui comptent sur LinkedIn et sur Instagram, si on devait en retenir deux ou trois principalement? Et puis aussi, est-ce que finalement, il y a des métriques qui sont sous-estimées aujourd'hui? On l'a déjà plus ou moins évoqué tout à l'heure, mais par les entreprises ou les marques?
Moi, rapidement, les métriques LinkedIn, évidemment, enregistrement, repartage qui sont extrêmement importants. Et puis, si ne serait-ce que ces deux-là, elles sont super importantes. Si on est indépendant, c'est évidemment de la visite profil, voir si on a un profil premium, bah, calculer un peu ce qui se passe, évidemment, sur le profil. Si on va sur Insta, nous, ça va être la rétention. Voilà, c'est tout simplement, alors c'est peut-être des calculs peut-être plus artisanaux, c'est la rétention entre ce qu'on va acquérir. Typiquement, on a un client qui peut générer des fois des pics de 1000 abonnés dans le mois. Bah, ce qu'on va calculer, c'est plutôt savoir qui est gardé, qui est parti en fait. Et ça, c'est important de faire cette bascule-là parce qu'autrement, on reste que sur des chiffres grosse croissance, gros volume, grosse visibilité, etc. Et on s'aperçoit que au final, ce n'est pas le plus efficace. Donc voilà, donc ratio départ arrivée.
Et en fait, Anthony, tu rejoins Alexis sur ces métriques. Sur LinkedIn, on parle beaucoup aussi des commentaires. Je ne sais pas si...
Ouais. Alors, je rejoins totalement ce que tu dis. Il y a l'usage aussi. Alors, un peu moins sur LinkedIn parce que c'est plus difficile à mesurer. L'usage en fait du sentiment, le fameux sentiment analysis. Alors, on le retrouve pas forcément en score, on va dire global, mais plutôt en viralité potentielle. C'est ce qui va nous permettre de voir si l'engagement aussi est mécanique et si derrière on a peu de diffusion aussi. Organique, est-ce qu'on a un engagement qui peut être un peu toxique ou qui peut être polémique? Je trouve que le sentiment est en fait hyper important. Avec l'engagement, voir si l'engagement est positif sur l'engagement aussi global. Et ça, c'est un indicateur, enfin qui devient un indicateur à part entière. Et ça évite de confondre beaucoup de réactions et bonne réception. Donc ça permet aussi de un peu mieux aussi arbitrer les choses. Et pour l'engagement, en fait, le sentiment, il n'est pas décoratif. Finalement, il sert à qualifier aussi la qualité du poste, mais la qualité du signal aussi. Donc, ça me paraît important. Mais je rejoins ce que tu dis.
OK. Là, je vous ai affiché un commentaire de David Fayant qui dit que la question cruciale est de déterminer l'évolution des métriques utiles pour les dirigeants avec le développement des IA génératives. Vous vous retrouvez dans cette citation ou pas ?
Oui, non, mais complètement. Après, j'ai envie même de raccourcir la question en métrique utile, parce qu'on y a ou pas, quel type de métrique utile a besoin d'un dirigeant ? Qu'est-ce qu'on va, quelque part, j'ai envie de dire, lui vendre ? De quoi il a besoin ? Comment, nous, notre sujet maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup la circulation de la communication, pas forcément la production de contenu, mais comment le contenu, il circule, etc. Donc oui, avec l'IA générative, il faut avoir des métriques valables, mais en fait, en gros, on revient toujours au même besoin, c'est-à-dire que de quoi a besoin ce dirigeant ? Est-ce que, comme le disait Anthony, est-ce qu'il y a une perception de la marque qui doit être faite avec des choses qui sont peut-être un peu moins palpables ? Est-ce que les impressions sont toujours pertinentes pour nous ? Elles ne le sont pas du tout. C'est peut-être le volume de commentaires, etc. Et juste pour rebondir là-dessus, si on parle d'IA et quelque part de métriques, on s'est aperçu récemment que LinkedIn était un gros pourvoyeur d'IA, c'est-à-dire en gros, tout ce qui est contenu créé sur LinkedIn va être mieux identifié, notamment évidemment des contenus qui sont un peu denses. Et il y a une vraie stratégie, pour rebondir avec la question de David, pour les dirigeants, qui est nous ce qu'on met beaucoup en place et sur lequel moi je me bats depuis des années là-dessus, depuis que j'ai vu arriver, c'est la newsletter LinkedIn, qui est un excellent accélérateur de visibilité qui est complètement sous-estimé. On doit avoir à peu près 500 000 abonnés dans le monde à des newsletters, pour un nombre de newsletters peut-être autour des 300 000 à peu près sur LinkedIn. Donc, un volume très faible au regard de la population. On est sur du milliard d'utilisateurs. Bref, donc, pour rejoindre la question, il y a à la fois à avoir des métriques utiles, mais en termes de stratégie concrète, là, par exemple, on a un axe dirigeant qui peut être très pertinent.
Bon, c'est très clair. Je voudrais juste terminer par une dernière question qui est un peu la question, je ne sais pas comment, pas gratuite, je ne sais pas trop comment la présenter, mais grosso modo, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'utilise pas la social data prend du retard sur sa stratégie ? Ou que se tire une balle dans le pied, si je puis m'exprimer. C'est un peu maladroit comme expression, mais est-ce que aujourd'hui une entreprise qui ne fait pas de social listening, qui n'utilise pas la social data, elle risque de prendre du retard ou d'être moins compétitive, de perdre du business ou...
Oui, elle se tire une balle dans le pied. Oui, elle manque quelque chose parce que c'est vraiment la matière première justement qui va former la, la, la perception finalement de la marque, justement par des IA. C'est plus seulement un outil de pilotage interne, donc c'est finalement plus que ça. C'est de piloter sa réputation auprès d'humains et auprès de machines, hein, finalement. Mm-hmm. Et c'est ce qui va permettre justement de ne pas se laisser dépasser, d'avoir une longueur d'avance aussi sur la concurrence. Il y a aussi cette logique-là. Donc oui, c'est devenu complètement crucial, quoi.
Sachant que j'imagine, enfin Alexis, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup d'outils, est-ce qu'aujourd'hui, je me mets à la place d'un indépendant ou d'une petite TPE, est-ce qu'on peut faire ce travail de social listening, d'utilisation des social data, sans avoir d'outils ou des budgets qui sont restreints en fait? Est-ce qu'on peut le faire, je dis un peu à l'arrache, manuellement ou pas? La réponse pour moi est plutôt non. Ou alors ce sera un peu bancal, mais voilà, je veux bien que vous m'éclairiez parce que je pense que derrière, dans ceux qui nous écoutent, il y a ceux qui se disent « Ok, c'est génial, j'y vais demain matin », et puis il y a ceux qui se disent « Je vais peut-être réfléchir parce que je n'ai peut-être pas les ressources nécessaires ».
Juste rapidement, il y a deux points. Il y a le fait que les réseaux eux-mêmes, vous prenez Meta ou LinkedIn, ils donnent quand même des métriques qui sont assez affinées. Ça, c'est le premier point. Donc, elles peuvent être largement suffisantes pour la majorité des personnes. Après, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier, et on l'a vu là avec, vous avez un outil, le nom m'échappe, qui a dégagé de l'analyse LinkedIn avant-hier. Moi, j'utilise AutoReadUp, par exemple, qui est une entreprise américaine qui est en conformité avec LinkedIn, parce que ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça soit sur Insta ou LinkedIn, il y a depuis un certain nombre d'années l'empêchement par les réseaux eux-mêmes de l'utilisation d'outils extérieurs qui vont être au bout d'un moment dégagés. Et c'est le cas avec cet outil que tout le monde revendiquait, dont le monde m'échappe, mais peut-être que d'autres l'ont retrouvé à la place. Bref, donc les outils gratuits suffisent, les réseaux eux-mêmes suffisent. Donc après, la question, et c'est toujours des questions, je suis chiant, hein, mais c'est des questions d'objectifs, c'est qu'est-ce qu'on veut lire derrière ? Voilà, tout simplement, parce que des outils pour des outils ne vont pas servir à grand-chose.
Non, mais c'est bien de répéter, c'est bien aussi. C'est bien. Anthony ?
Après, l'outil n'est pas la finalité. Ce qu'on peut voir, c'est que l'IA décuple finalement la social data. Je parle d'avant. Quand je dis avant, il y a 5 ans, on analysait des milliers de mentions à la main. Hein, j'en ai fait pas mal. Hein. Aujourd'hui, on traite des volumes vraiment très forts en temps réel. Et c'est ce qui va permettre derrière de détecter des nuances de sarcasme, des signaux faibles, etc. Et des outils comme TalkWalker, par exemple, va le faire en quelques minutes, ce qui demandait des semaines à une structure, à un cabinet d'études il y a peu. Donc en fait, il y a cette notion-là, et puis on passe de l'écoute en fait à la prédiction. En fait, on ne constate plus et on anticipe. C'est de savoir ici... quelles sont les thématiques qui vont monter, quels sont les formats en fait qui vont saturer, où est-ce que la conversation va se déplacer, et c'est de savoir en fait quels sont les signaux qui annoncent une crise en fait avant qu'elle n'éclate. Tout ça, l'IA nous permet d'aller plus vite effectivement dans le processus et de ne pas le rater. C'est un changement en fait de nature et c'est un changement de discipline, parce qu'en fait l'IA, alors il n'y a pas que des bons côtés, parce qu'elle est devenue aussi consommatrice aussi de data sociale, parce que quand on a un ChatGPT, un Perplexity ou autre, Gemini vont répondre à une question en fait sur une marque ou sur un secteur, ils vont s'alimenter de ce qui se dit publiquement sur le web social, donc avis, forums, etc., etc. Donc en fait, voilà, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus un outil de pilotage interne, c'est cette matière première en fait qui va former la perception de la marque par des IA. Demain, quand un prospect, c'est déjà le cas, un prospect ou un recruteur va demander à ChatGPT, parle-moi de cette entreprise, la réponse, elle est alimentée par l'empreinte, finalement, par l'empreinte sociale. Donc voilà où on en est, quoi.
Ok. Merci à tous les deux. Et donc, on enchaîne sur un autre sujet pour le coup aujourd'hui. À quoi ressemble une présence qui convertit ? La question, c'est voilà, qui convertit, qui est performante. Donc, les clés, c'est quoi les clés, du coup, Alexis ?
Bah, déjà, moi, pour moi, il y a depuis un certain nombre de mois, voire d'années, il faut vraiment sortir du fameux mythe de la viralité. Ça, c'est un peu pareil, c'est une arlésienne, c'est quelque chose qu'on répète sans arrêt. Mais dans le mythe de la viralité, il y a aussi beaucoup les techniques de copywriting qu'on émaner, si on parle beaucoup des indépendants, sur des façons de faire des patterns, des templates, des modèles, etc., etc. Ce qui fait une reproduction à l'infini de discussions qui se ressemblent. Et donc, du coup, c'est compliqué après de retrouver ces petits là-dedans. Et souvent, d'ailleurs, même avec les outils, l'IA et tout ce que vous voulez, on finit par se copier puis oublier l'origine de son positionnement, de ses objectifs, etc. Et voilà. Donc, il faut vraiment sortir de ce truc-là. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, c'est les métriques, c'est quelles métriques j'utilise. Évidemment, si vous dites, il y a quelques années, je faisais 500 000 vues par an sur LinkedIn et aujourd'hui, j'en fais 200 000, je suis devenu nul. Non, je suis pas devenu nul. Ce qu'on va interroger, c'est le cadre commercial. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Et puis après, si on prend une présence, alors après, on verra peut-être dans les actions concrètes qu'on propose de mettre en place ce qu'il faut et effectivement sur quoi parier. Mais dans la deuxième lecture que je voudrais avoir aussi là-dessus, typiquement, exemple Instagram, on s'est aperçu, mais c'est une analyse longue, c'est une analyse d'une année, qu'effectivement, on avait des clients en e-commerce qui pouvaient ramener un client en particulier 20 000 abonnés par an. Alors ça, c'est pour la vanity metric, c'est très sympa. Mais ce qui nous a intéressé dans l'analyse et l'étude, et là, l'IA aussi nous aide à décortiquer tout ça, c'est qu'on avait 72% de pubs, de trafic via la publicité. Donc, évidemment, ces leviers de croissance nous qu'on met en place, ils sont extrêmement importants, mais on s'est aperçu que 3% c'était que 3% des interactions. C'est-à-dire que la publicité attirait du monde, mais l'audience qui était là était celle qui faisait liker, commenter les contenus, etc. Donc, c'est important d'avoir déjà cette lecture-là. Et dans notre lecture d'efficacité, c'est de se dire que bah, 97% de la consommation vient des reels. Donc, ça veut dire que là, on a une lecture stratégique. C'est-à-dire qu'on sait comment générer du trafic. On sait qui va liker avec notre taux de rétention et on sait quel type de contenu on va faire. Mais ça demande une lecture d'au moins 6 mois, voire un an. Et donc, du coup, pour être efficace, encore une fois, et je vais faire un parallèle avec du physique. Vous savez, même dans des grandes enseignes, hein, et dans des grandes enseignes, on a aussi la possibilité, dans des boutiques physiques, bah, tout simplement, les gens, ils font quoi? Bah, ils analysent le nombre de personnes qui rentrent dans le magasin. Quel est le ticket moyen? Est-ce qu'ils ont gagné par rapport à l'année dernière, etc., des comparatifs? Donc, ce qu'on fait dans le physique qui paraît indispensable, etc., il faut aussi le faire, j'ai envie de dire, dans le digital. Pourquoi? Parce que si vous n'analysez pas les bonnes mesures sur le long terme, vous ne pouvez pas agir en conséquence derrière. Donc, une bonne présence, c'est sortir de la viralité, étudier sur la longueur ce qui performe pour vous. Et le reproduire. Après, évidemment, il y a d'autres leviers, etc. Mais en l'occurrence, moi, je voulais surtout insister sur ces deux points-là.
Alors, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la durée, en fait, parce que finalement, force est de constater que les gens ont pris cette habitude à vouloir tout tout de suite. Bon, ça fait des années qu'on se bat pour se dire qu'en fait, les résultats, ils n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, hein. C'est un travail de fond qu'il faut mener. Donc, encore plus, j'imagine, avec la social data, puisqu'on ne peut pas se faire des recommandations, des suggestions tous les mois, sachant qu'on n'a pas assez de recul sur les données auxquelles on a accès. Donc, c'est très intéressant que tu reviennes sur ce point-là. Peut-être toi, Anthony, tu es d'accord là-dessus, sur la viralité et puis le temps qu'il faut aussi pour prendre la mesure des choses et être justement plus efficace après sur la stratégie et sur les actions à mener.
Oui, ce qu'a dit Alexis est assez central. Et la viralité ne convertit pas. J'ai vu passer pas mal de posts à haute portée qui ont généré quasiment enfin, aucun lead. Et puis, à contrario, bah, des posts beaucoup plus confidentiels qui ont déclenché vraiment des leads. En fait, ce qui convertit, effectivement, ce n'est pas le volume, c'est les signaux faibles. C'est exactement ce que la social data peut permettre finalement de traquer. Donc ces signaux faibles, enfin, c'est tout ce qui se passe avant l'acte d'achat. Ça peut être, on parlait tout à l'heure, une mention sans tag, une question sur un forum spécialisé. Ça peut être une frustration aussi exprimée en avis client. Des intentions d'achat finalement qui ne disent pas leur nom et qui sont invisibles à la quasi-totalité des marques parce que elles ne regardent que leurs propres canaux, leurs propres mentions taguées, leurs propres formulaires. J'ai un cas qu'on a géré il n'y a pas très longtemps, un cabinet RH, une trentaine de personnes, 3, 4 posts LinkedIn par semaine en moyenne, avec du contenu plutôt corporate, assez sérieux. On va dire silence radio, quelques vues, quelques likes, qui est vraiment zéro lead. On a écouté le terrain avec des outils de listening pendant près de 3 semaines avant de produire vraiment quoi que ce soit, c'est-à-dire des conversations RH sur X, LinkedIn, les forums pro, commentaires des concurrents. Et il y a 3 petits insights qui nous ont sauté aux yeux. Le terme QVCT qui était saturé, plus personne en fait ne cliquait. Par contre, charge mentale au boulot, ça explosait, et surtout chez les managers. Même sujet, mais avec en fait un vocabulaire qui était différent. Et en fait, avec des DRH qui ne lisaient pas le matin, qui consommaient plutôt le soir entre 21 et 23 heures. Et toute la stratégie en fait de publication à 9 heures, elle était un peu à côté. Donc, en fait, les posts qui cartonnaient n'étaient pas des conseils, c'était surtout des prises de position qui étaient clivantes sur le télétravail et sur le management. Et c'est ça revient à ce que disait Alexis tout à l'heure, et c'est là où la social data nous a dit quoi dire finalement. On l'a adapté pour l'algo, la data pour le fond et finalement l'algo pour la forme. Donc là, derrière, les résultats ont été assez bons, hein. En plus, 340% d'impression. On a un engagement qui est passé de 0,8 à 4,2, des leads qualifiés, 12 leads qualifiés entrant. Avant, on n'en avait pas du tout. Donc, sans changer de budget, mais en fait, juste en écoutant avant de parler. Donc, c'est là où on voit que la conversation, elle se joue vraiment dans des zones qui sont un peu invisibles, finalement, au dashboard classique. Et en fait, ça peut être effectivement une question technique sur un outil concurrent dans un groupe LinkedIn, un prospect en réflexion active. Ça peut être une demande de reco aussi dans un groupe pro. C'est vraiment l'écoute, c'est l'écoute fine, ce qui va permettre d'avoir une présence qui convertit, une écoute fine, se positionner de façon juste et être là, finalement savoir être là au moment où il y a un besoin qui émerge. Et, pas 3 semaines après, quand le concurrent en fait a déjà signé. En gros, sans social data, c'est un peu de la chance, quoi.
On retrouve la célèbre formule « la bonne information au bon moment à la bonne personne ». En tout cas, moi, je trouve génial, tu as donné le créneau 21h, 23h, tout le monde est focus sur 9h. Personnellement, c'est mon cas, mais on est dans le marketing et la com, donc on a tendance à penser que c'est le meilleur créneau. Mais là, typiquement, pour public RH, pour cette communauté-là, c'était plutôt fin de journée, parce que dans la journée, ils sont sous l'eau, ils n'ont pas forcément le temps pour se connecter. Et puis, la saturation de certains contenus, voilà, la bonne information au bon moment aux bonnes personnes, bon, voilà, c'est clair, c'est un exemple extrêmement concret et précis qui parlera sûrement à beaucoup d'autres. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Alexis, ou pas?
Non, mais je suis complètement en phase. Je voulais juste de donner un deuxième exemple terrain pour dire que c'est concret et qu'il faut de la longueur pour un établissement dans le tourisme qu'on a accompagné, mais ça, on parle de 3 ans. On a orientation vers le bon canal. Alors, il était très atypique, donc il ne voulait pas aller sur ce canal qui, en l'occurrence, est Instagram. Ça, c'est première orientation. Deuxième orientation, c'était tout simplement activer, évidemment, de la publicité, etc. Il s'est aperçu qu'au bout d'un moment, 80% de sa clientèle venait par Instagram international. Il a pu casser les intermédiaires qui lui prenaient de la marge, c'est-à-dire des bookings, etc. Donc là, on a des actions business concrètes. Et au final, en fait, c'est quelqu'un qui, sur 4 ans, a ouvert à une holding son établissement. On a une croissance de 2 à 300 000 de bénéfices en fonction des années, même avec des périodes un peu creuses. Mais là, il y a une vraie action de… Mais là, en gros, très honnêtement, c'était de l'humain. C'est-à-dire qu'il fallait convaincre vraiment avec quelqu'un, des fois, qu'en plus, il fait pirater son compte, qu'il vous appelle en pleurant. Voilà, donc il y a à la fois de la psychologie humaine là-dedans. Mais en fait, ce qui nous a plu dans cet exemple, c'est que c'est de la longueur. Là, on parle de 3, 4 ans, avec un résultat final financier et donc une vraie lecture. Mais ça prend du temps. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on peut même, avec des petits moyens, avoir des vraies actions en choisissant le bon canal, en mesurant les bonnes choses, en interrogeant, comme disait Anthony, le terrain, parce que ça, c'est lecture remontée de d'où vient mon audience, d'où viennent mes clients, etc. C'est souvent des lectures terrain. Et donc là, on a un impact au final qui peut être très intéressant comme exemple.
Bon, la bonne information au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Voilà, donc ça, je complète la formule. Et bon, bah, voilà, du coup, ce qui est intéressant, ce que ça m'évoque aussi, c'est aussi, une fois qu'on a fait cet état des lieux, justement, toutes ces attaques dont vous venez de parler, il y a aussi cette capacité à convaincre la personne qu'on a en face de soi aussi. Donc ça, j'imagine, c'est un autre débat, parce que quelquefois, les personnes s'attendaient pas à avoir ce genre de résultats, ils sont pas spécialement convaincus par ce qu'on leur donne comme information. Mais bon, ça, je vais pas m'y attarder parce que le temps tourne et on a encore j'aimerais qu'on finisse par quelque chose par des actions concrètes. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi cette capacité à convaincre l'autre, dire là, vous étiez sur LinkedIn, allez sur Insta. Et encore Insta, ça reste assez classique, mais si tu passes d'un LinkedIn à un TikTok, je pense que pour certains, ça doit être une vraie révolution. Donc il y a un gap à passer. Donc, je voulais finir ce webinaire et je vous remercie d'avoir joué le jeu justement sur trois actions concrètes à appliquer dès demain. Donc, voilà, du concret, de l'utile, du simple et du applicable. Et donc, je te donne la parole pour conclure ce webinaire, Anthony, puis après, ce sera au tour d'Alexis.
Alors, je dirais que la première action, c'est se place sur l'écoute active, à une écoute en continu hebdomadaire, c'est-à-dire alerte sur la marque, les produits, les dirigeants, etc. Deux, trois sujets aussi stratégiques du secteur. L'important, c'est de la régularité. En faisant comme ça, ce n'est pas un audit annuel. On aura plus d'insights en 30 jours, d'insights actionnables que dans toutes les études payées, on va dire, de manière générale, et les études de marché. Donc, c'est vraiment une écoute active. Donc, ça, c'est le premier point. Je dirais que l'autre action aussi, c'est d'arriver à pratico-pratique, hein, d'identifier trois signaux faibles prioritaires. En gros, c'est de se dire, voilà, demain matin, 30 minutes, trois quarts d'heure, allez, dans l'agenda, c'est d'identifier trois signaux faibles. Par exemple, une frustration récurrente de clients dans le secteur, une question qui revient dans les commentaires des concurrents. Ça peut être un sujet aussi émergent qui est traité par personne. Et ces trois signaux, en fait, ça devient la matière première, on va dire, éditoriale pour les 30 prochains jours. Et à ce moment-là, on arrête de chercher des sujets. C'est le marché, en fait, qui vous les donne. Et la troisième action, c'est de tester un sujet avant de publier, c'est-à-dire avant le prochain gros contenu, que ce soit, je sais pas, une série de posts, un livre blanc, etc., c'est tester le sujet justement par la social data. Est-ce que ça génère déjà des conversations avec quels mots-clés, quelles émotions, quels angles aussi sont saturés? Et ça, quelques heures de cadrage en amont, ça économise des semaines de production sur un sujet en fait qui n'aurait jamais décollé. Donc, c'est tester en fait avant de publier.
Ok, c'est vrai que sortir un livre blanc de 50 pages sans certitude que ça va fonctionner, c'est un peu touchy, hein, mais on est d'accord. Alexis ?
Oui, je rebondis juste rapidement. Vous avez une option maintenant sur Instagram pour tester vos publications à une audience tierce. Et donc ça, ça rebondit un peu sur ce que disait Anthony, donc c'est très intéressant. Donc moi, mes trois recos, il y a 2-3 ans, enfin, moi j'étais quand j'accompagnais des dirigeants, quand on accompagnait des dirigeants, moi j'ai toujours été focus sur le positionnement pendant que beaucoup étaient sur les techniques d'écriture, etc. On revient, moi je reste ancré là-dedans. S'il n'y a pas de bon positionnement, vous ne saurez pas quoi écrire, vous ne saurez pas à qui vous adresser, etc. Donc, le positionnement, c'est vraiment la clé. Ça part du profil LinkedIn, profil Instagram. Donc, le positionnement est central, surtout aujourd'hui, parce que LinkedIn a besoin de vous identifier. Et une lecture business, je vois encore trop de personnes, effectivement, comme on disait tout à l'heure, hein, qui au moment de la conversion, c'est pas une question de système, de est-ce que j'ai mis Claude, est-ce qu'il y a des agents IA qui me font des conversions. C'est au moment où on a le call, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en physique? Moi, je vois beaucoup de gens actuellement, effectivement, avoir des difficultés dans un contexte qui est extrêmement compliqué dans nos métiers de la communication, marketing, etc. etc. Et souvent, la clé que j'ai vue, c'est l'incapacité de ces personnes-là à garder le lien avec leur client, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et on apprend surtout, notamment dans les grands comptes, alors qui ne sont peut-être pas les cibles de tout le monde, à travailler notamment sur l'identification de ce qu'on appelle une taupe, c'est-à-dire quelqu'un qui, à l'intérieur de l'entreprise, va vous aider à travailler, etc., et à creuser un peu les sujets. Et nous, on s'aperçoit que concrètement, c'est ce qu'on fait naturellement, humainement, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on renouvelle aussi des contrats. Donc, la lecture business, elle va à la fois du marché que de l'action concrète de savoir vendre à comment je garde aussi des liens à l'intérieur. La deuxième chose, on en a parlé beaucoup, c'est évidemment la lecture intelligente des métriques. Arrêtez de manger de l'impression, etc. C'est plus là où ça doit jouer. Donc, ça repose aussi votre question de positionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends pour avoir la bonne métrique à lire. Et la dernière qui nous concerne, il y a inexorablement le besoin de construire des médias. Nous, ce qu'on appelle des médias, c'est effectivement, c'est beaucoup lié à la vidéo. C'est pas n'importe, je parle pas forcément de podcast, etc. Mais les médias vont aussi être aussi aujourd'hui sur des newsletters LinkedIn. On va avoir aussi des clients avec qui on va travailler carrément des cercles de réflexion, voire du lobbying à l'intérieur de ces cercles de réflexion. Par exemple, typiquement ce soir, c'est ce qu'on fait. On va filmer tout ça pour un de nos clients. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc ça part effectivement de la vidéo. Comment je peux actionner un média, une série à quelque chose qui est peut-être plus en profondeur comme la newsletter LinkedIn, jusqu'à, pour certaines entreprises, comment on va réinvestir le terrain avec des actions concrètes qui vont nous permettre d'être au contact de nos clients, de faire venir des experts, etc. etc. Donc, cette construction de médias, elle a une vision beaucoup plus globale. Voilà, c'est un peu les trois points, mais l'essentiel, c'est vraiment le positionnement. Je suis chiant, excusez-moi, mais le positionnement, il est extrêmement central. C'est vrai pour les boîtes hein, aussi. Hein. Évidemment.
On ne rabâche jamais assez, donc je pense que c'est toujours bon d'insister sur ces points. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, donc finalement, si je résume, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on lit à droite à gauche. Finalement, à vous entendre, il faut sortir un peu de sa zone de confort et des fondamentaux. Bien sûr, il faut miser sur la social data autant que possible. Mais en tout cas, il y a cette connaissance de son écosystème, la compréhension de son environnement, de la manière dont ça fonctionne, et puis aussi de toutes ces conversations auxquelles on a accès. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Non, écoutez, je vous remercie sincèrement tous les deux pour l'expertise que vous nous avez partagée et surtout aussi les retours d'expérience et d'exemples clients qui parleront certainement à ceux qui nous ont écoutés. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis pendant cette heure qui s'est déjà très vite écoulée. Et puis, là, je vous ai affiché les prochains webinaires qui seront organisés pour Numériquissimo. Le prochain, c'est le 10 juin, autour de l'IA et du marketing. Vaste débat aussi. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront évoquées. Puis, il y en a d'autres d'ici la fin de l'année 2026 qui vous seront proposées. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur numériquissimo.fr pour justement connaître les prochaines dates et les prochaines actualités. Et puis, bien sûr, le site web qui a une nouvelle tête depuis quelques semaines, qui est tout beau. On est super fiers de ce rendu. N'hésitez pas à candidater. Et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est présents sur LinkedIn, sur X. Et puis, toute l'équipe de Numériquissimo sera ravie d'échanger avec vous si vous souhaitez les solliciter. Merci Alexis. Merci Anthony. Et merci à vous. Et très bonne fin de journée à vous.
Merci, au revoir.
Journée à vous. Au revoir.